voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Pierre Fimon, diplomate français.
Cinquième épisode, un nouveau monde. Bonsoir Pierre Fimon.
Bonsoir.
Alors après la formation familiale, la théorie et la pratique du métier, l'expérience des situations compliquées, la relation aux politiques, c'est vers l'analyste que j'aimerais me tourner ce soir pour la dernière de nos émissions. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que nous vivons à l'heure où nous parlons, à savoir en 2022, et ça deviendra peut-être un document intéressant à réécouter dans les années à venir. Et j'aimerais pour cela m'appuyer sur l'expertise que vous avez acquise au cours de toutes ces années, lors de vos voyages, lors de vos multiples expériences, à travers vos connaissances, vos compétences également, que vous mettez désormais à profit au sein de think tanks comme le Carnegie Europe, comme le Centre de dialogue humanitaire à Genève, et dont vous faites bénéficier également les étudiants de l'Université de Columbia. Pour commencer, Pierre Fimon, comment qualifier notre monde ? Est-ce qu'on assiste, selon vous, à la fin d'une époque, au début d'une nouvelle, ou est-ce qu'on est vraiment dans un entre-deux ?
On est probablement dans un entre-deux, mais passage d'un monde à un autre, avec toutes les conséquences de cet entre-deux. Le fait que... On voit bien que le système existant, l'ordre international existant est en train d'être profondément bouleversé et que on n'arrive pas encore à définir et à établir un ordre mondial nouveau. Et beaucoup d'explications ont été données à cela. Je ne veux pas revenir parce que ce serait fastidieux. Moi, je voudrais insister sur un point que dans ce... On a parlé de monde multipolaire, de nouveaux défis qui se présentent à nous, le changement climatique, les nouvelles technologies qui façonnent un monde totalement différent, très globalisé, très interconnecté, et qui fait que on le voit très bien avec cette guerre d'Ukraine qui est au fond la première grande guerre du 21e siècle, qu'elle se développe dans des dimensions et dans des directions tout à fait nouvelles qu'on n'avait jamais connues avant. Les cyberattaques, la désinformation, en plus, bien évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, de la guerre conventionnelle qui se passe sur le terrain, la menace d'escalade nucléaire, comme on l'a jamais vu dans un conflit depuis très longtemps. Henry Kissinger rappelait que les deux grandes puissances nucléaires, Russie à l'époque, Union soviétique, et États-Unis, lorsqu'elles sont été en guerre en Afghanistan ou bien en Irak, n'ont jamais utilisé la menace nucléaire, quand bien même elles étaient l'une et l'autre en difficulté sur le plan conventionnel. Donc on voit bien qu'il y a plein d'éléments totalement nouveaux qui apparaissent là et qui expliquent ce changement d'époque dans lequel on est. Mais moi, je trouve que la partie la plus intéressante de cette situation dans laquelle on est, c'est que, pour le dire d'une phrase, les laissés pour compte de l'ordre international n'acceptent plus la situation aujourd'hui. On emploie parfois le terme de sud global, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas les grandes puissances, qui ne sont pas les pays occidentaux, les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie.
L'Inde, le Brésil, les pays africains.
La Turquie, l'Afrique du Sud et d'autres encore. Tous ces pays-là n'acceptent plus ce que l'on appelle aujourd'hui le narratif occidental, le récit occidental. C'est-à-dire l'ordre multilatéral tel qu'on l'a mis en place depuis 1945. Ces pays du Sud disent c'est injuste, il a été façonné pour servir vos intérêts, ça ne marche plus aujourd'hui. Les discours sur la démocratie, c'est votre modèle démocratique à vous, mais maintenant on en a assez, d'autant plus que votre modèle démocratique à vous, il commence à être mis en cause de l'intérieur par la montée du populisme, la contestation même du système électoral, comme l'a fait Trump aux États-Unis ou comme l'a fait Bolsonaro au Brésil. Tout ça, ça ne marche plus. Et vos actes ou vos déclarations de générosité au moment de la pandémie, aujourd'hui avec les risques d'insécurité alimentaire, de manquer de blé ou autre, ou d'engrais, vous nous dites de belles choses, mais on voit rien venir. Et la famine approche et les difficultés croissent. Et donc on voit bien que ce Sud global, maintenant, ne veut plus du tout entrer dans notre discours et dans tout ce qu'on essaye de dire et de faire. Même à certains égards, quand on leur dit « mais regardez l'Ukraine, c'est terrible, c'est une souveraineté d'un État membre remise en cause, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine foulée aux pieds. Vous êtes membre des Nations Unies, vous avez souscrit à ces principes d'intégrité territoriale et de souveraineté nationale. Et vous devriez donc être très gêné par ce qui se passe là et que vous devriez nous soutenir dans notre action contre la Russie et dans notre positionnement très ferme contre la Russie. » Eh bien, ces pays préfèrent s'abstenir et nous disent « c'est pas notre guerre ». Et de toute façon, vous nous avez tellement menés en bateau dans le passé que maintenant, nous n'acceptons plus. Et c'est aujourd'hui cette difficulté à retrouver un discours, de retrouver une manière de dialoguer avec ces pays pour leur redonner un peu confiance dans ce que nous essayons de faire, nous, les Occidentaux. Et c'est un travail difficile et gigantesque qui nous attend là. C'est comment rétablir une confiance qui, à mon avis, n'existe plus aujourd'hui avec beaucoup de ces pays. Et vous le voyez bien, même pour revenir à la situation de la France en Afrique, on voit bien qu'il y a actuellement cette montée d'un sentiment, je dirais, en langage diplomatique, critique à l'égard de la France, je dirais pas anti-français, mais une espèce de ras-le-bol de la présence française. Et on voit bien que malgré tous les efforts du président de la République, et Dieu sait s'il s'est démené et s'est mobilisé pour essayer de retrouver le contact avec l'Afrique, il y a encore un énorme travail à faire.
Peut-être, puisque vous citez le continent africain, en l'occurrence, peut-être les chefs d'État africains qui sont prêts à entendre un discours critique de la France, enfin, moi je peux dire anti-français, je suis pas diplomate, sont-ils aidés dans cette démarche par deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie, très présentes sur le continent africain et qui ne s'empêchent pas, au contraire, d'alimenter, de mettre de l'huile sur le feu, d'une certaine façon. Donc, est-ce que ça veut dire, d'une certaine façon aussi, Pierre Vimont, qu'on assiste parallèlement à tout ce que vous dites, c'est-à-dire fin de la domination occidentale du monde et déclin des démocraties, à un retour à un monde de grande puissance?
Oui.
Qu'on avait un peu perdu quand même.
Oui, mais la question c'est est-ce que ces grandes puissances ont jamais disparu? En d'autres termes, c'est un monde de carnivores, c'est un monde où chacun défend ses intérêts et c'est normal, et où ceux qui ont plus de puissance que d'autres les défendent encore plus que les autres. Pendant longtemps, ça a été essentiellement les États-Unis, disons pendant cette période de la fin de la guerre froide où on a vu une sorte de monde unipolaire, comme on a pu le dire, mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était d'ailleurs probablement une parenthèse, hein, et on est revenu à ce qui est un monde d'affrontement entre grandes puissances. Ce qui est nouveau peut-être dans ce monde aujourd'hui, c'est que d'abord il y a une nouvelle puissance qui est apparue, la Chine, hein, qui est venue se joindre aux États-Unis et à la Russie, ancienne Union soviétique, qui elle donne plutôt le sentiment d'être un peu en déclin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'autres puissances apparaissent. Et quand on dit oui, mais ce sont des puissances régionales, dans mes contacts avec les Turcs ou les Indiens, quand on leur dit ça, ils ne l'acceptent pas. Ils disent non, pas du tout. Moi, j'ai une vraie volonté d'exercer un rôle sur la scène internationale. Il y a un moment que j'avais trouvé tout à fait...
Volonté, mais en ont-ils les moyens, en tous les cas, aujourd'hui?
Ils les auront, ils commencent à les avoir et ils continueront à les avoir. C'est vrai que pendant un moment, on a pu les repousser d'un geste un peu de dédain en disant non, vous n'avez rien à faire là-dedans. Un moment tout à fait intéressant que tout le monde a oublié, c'était un moment assez difficile de la négociation avec l'Iran sur leur programme nucléaire. Ça devait être 2008-2009. Il y a deux pays, je les cite parce que c'était très intéressant, le Brésil et la Turquie, qui ont voulu essayer de jouer un rôle de médiateur entre les grandes puissances, les fameux 5+1, les États-Unis, les trois grands Européens, la Russie et la Chine. Et ils ont essayé d'organiser une médiation. On les a renvoyés, mais très très rapidement chez eux, en leur disant « De quoi vous mêlez-vous » 10 ans ou 15 ans plus tard, ils sont de retour et ils nous disent « Maintenant, on veut jouer un rôle, on a quelque chose à faire et on a quelque chose à dire. » Et je crois que nous devons en tenir compte et que nous devons accepter que désormais, dans ce futur ordre mondial, il faudra leur donner toute leur place dans ce que nous essayons de faire. Donc, j'en reviens toujours à la même chose, les écouter un peu plus, prendre en compte leurs demandes, leur faire de la place. Le paradoxe à certains égards, c'est que si vous prenez par exemple la réforme du Conseil de sécurité, qui est une très forte demande de ces pays-là, les pays qui s'opposent le plus à cette ouverture, c'est la Russie et la Chine. Et que voilà un thème qu'on devrait utiliser plus à l'égard de ces pays du Sud pour leur dire, si vous êtes mécontent de la situation actuelle, allez vous plaindre auprès de la Russie et de la Chine pour leur faire valoir qu'il faut ouvrir et élargir ce Conseil de sécurité, parce que c'est la Russie et la Chine qui sont les moins ouverts à une telle réforme.
Et peut-être, de ce point de vue-là, sont-ils ceux qui sont le plus aujourd'hui dans cette logique d'affrontement ? Parce que on a l'impression, à vous écouter, que on pourrait se dire un monde ou des relations internationales plus ouvertes, plus à l'écoute des autres pays, donc peut-être visant à un peu plus d'égalité, de représentation, de droits au niveau international, serait-il un monde idéal, enfin, qu'on appelle de nos voeux ? Sauf que, dans le même temps, vous dites, on est dans une logique d'affrontement. D'affrontement de puissances qui veulent s'affirmer et tenues par deux grandes puissances aujourd'hui, que sont la Russie. Bon, les États-Unis, d'une certaine façon, entretiennent ça aussi, mais peut-être avec un pôle diplomatique moins menaçant, disons, pour certains de ces pays-là.
Oui, peut-être, et vous avez raison, la paix éternelle, selon Kant, n'est pas pour demain, je pense. Mais vous savez, là encore, si l'on écoute un peu plus ce que nous disent beaucoup de pays du Sud, et quand nous leur disons, mais nous sommes des puissances démocratiques qui ne recourront pas à la force, à la puissance, nous sommes dans l'influence, le soft power, c'est ça notre marque de fabrique en quelque sorte. La réponse c'est, qu'est-ce que vous avez fait en Libye ? Il y avait bien une intervention militaire en Libye, qu'est-ce que vous avez fait en Irak ?
La liste est longue. De la réalité.
Et donc, c'est cette image-là qui nous renvoie. Et encore une fois, je reviens toujours à ce que je dis, il faut être conscient de ce que nous sommes et avoir cette intelligence de la situation qui fait qu'on comprend ce que les autres pensent de nous. Vous savez, moi j'ai toujours gardé un souvenir très fort. À l'époque, je travaillais à l'Union européenne et il y a eu le printemps arabe tout au long de l'année 2011 et même encore en partie dans l'année 2012. En Égypte, en Tunisie, en Libye. Je suis allé dans beaucoup de ces pays, notamment en Égypte, pour parler avec les jeunes qui manifestaient, pour parler avec les gens qui arrivaient dans les administrations, les nouveaux venus. Et tous me disaient une même chose, on en a assez de vos leçons de morale, vous les Européens. On en a assez de votre façon de venir nous dire « je vais vous donner de l'aide, mais voilà ce que vous devez faire en contrepartie ». Alors je sais bien que nous défendons nos valeurs et que nous aimerions qu'ils les prennent en main. Mais tous ces gens nous disaient en permanence, on ne vous disait rien avant, dans les années suivantes, on subissait vos leçons de morale, vos demandes permanentes. Mais maintenant, avec cette révolution, nous voulons avoir notre mot à dire et nous voulons que vous preniez un peu plus en compte nos problèmes de fond, que vous nous aidiez un peu plus davantage en prenant en compte ce que nous demandons et pas ce que vous, vous voulez qu'on fasse. Et ça m'est resté parce que malheureusement, cette révolution, ce printemps arabe n'est pas allé très très loin. Les choses ont un peu repris leur cours et j'ai un peu l'impression que du côté de mes anciens collègues de l'Union européenne, on a repris le train-train, les processus un peu bureaucratiques, les projets de coopération et de développement qui restent un peu toujours les mêmes et qu'on n'a pas fait cet effort sur nous-mêmes de se remettre un peu en cause.
Pierre Vimont, sur quoi tout cela peut-il déboucher si on les écoute, si on ne les écoute pas?
Dans les deux cas, il me semble que ce que... si on les écoute, on peut déboucher peut-être sur une relation un peu apaisée et un peu plus stable, et sur un monde un peu plus stable qu'il n'allait à l'heure actuelle. Si on ne les écoute pas, je pense qu'on va aller vers davantage d'affrontements. Et fondamentalement, si on reste, par exemple, dans le cas des pays arabes ou du Moyen-Orient, sur une incapacité à aider ces pays à régler un certain nombre de problèmes fondamentaux qu'ils ont aujourd'hui, le développement économique, les questions de changement climatique, l'immigration qui va continuer, des problèmes de gouvernance politique et d'aide pour doter ces pays de capacités en matière d'administration, de fonctionnement de l'État qui manque sérieusement. C'est tout ça qui va manquer. Et donc oui, il faut qu'on soit capable d'inventer avec eux un nouvel ordre mondial plus équilibré, je dirais.
Dans ce contexte, quel est le rôle du diplomate? Est-ce qu'il est le même ou est-ce qu'il change dans un monde à la fois multipolaire, de fait, et puis avec toutes les nouveautés que vous venez d'évoquer?
Il est le même parce que il consiste toujours à aider le pouvoir politique à sortir de l'ornière dans laquelle on est actuellement et de l'impasse dans laquelle on se trouve, à mon avis, à l'heure actuelle. Et c'est-à-dire d'appliquer la démarche que vous retrouvez chez quelques très grands diplomates, je pense en particulier à Henry Kissinger, qui est cette capacité à concilier toujours le long terme et le court terme. C'est-à-dire, en réalité, à commencer par la fin. C'est-à-dire, à essayer de définir quel est l'objectif qu'on veut à long terme. Quel est ce nouvel ordre mondial auquel on veut parvenir? Et puis, à partir de là, de rétro-pédaler, en quelque sorte, pour définir quelle est la politique étrangère que l'on veut mettre en ordre pour mettre en place pour obtenir ce résultat et quelle est l'action diplomatique au jour le jour qu'on doit mener pour mettre en œuvre cette politique étrangère et ces grandes lignes de politique étrangère que l'on a fixées. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête comme démarche. Et à partir de là, le diplomate, il doit nourrir cette démarche, ces trois étapes, en faisant des propositions, en essayant de convaincre, plutôt que de faire ce qui est un peu la tendance aujourd'hui de la gestion de crise au jour le jour, qui manque un peu de hauteur de vue.
Ce qu'on voit à côté de la multiplication des acteurs étatiques sur la scène internationale, c'est aussi la multiplication des médiateurs privés, des agences, des think tanks. Est-ce que vous les voyez comme une alternative à la diplomatie officielle ou est-ce que vous la voyez cette multiplication comme une complémentarité dont les diplomates comme vous, Pierre Vimont, ont besoin aujourd'hui parce que le monde est vraiment très très difficile à appréhender?
Je le vois comme une complémentarité indispensable en réalité. C'est un peu le drame du diplomate aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus le monopole des relations internationales parce que de nouveaux acteurs sont apparus, pas simplement les médiateurs, mais les associations, les organisations non gouvernementales, les entreprises. Les chefs d'entreprise sont aujourd'hui des acteurs importants. Bill Gates est un acteur important à la fois dans le domaine du développement, dans tout ce qui s'est fait au moment de la pandémie. C'était quelqu'un qu'on écoutait parce que c'est quelqu'un qui avait prévu ça depuis longtemps, qui est prêt à mettre de l'argent pour essayer de trouver de nouvelles méthodes scientifiques. Donc tous ces acteurs sont là autour de la table et la COP, les réunions, la COP 21 à Paris et tout ça, maintenant les ONG, les organisations non gouvernementales sont là, elles sont dans la salle, elles participent aux discussions. Et donc le drame du diplomate, c'est qu'il n'est plus seul.
Oui, c'est ça.
Et qu'il c'est plus compliqué, mais c'est indispensable. Et dans ce cadre-là, les médiateurs dont vous parliez deviennent des acteurs qui n'existaient pas quand je suis entré dans ce métier, mais qui aujourd'hui sont devenus tout à fait indispensables pour aider les gouvernements éventuellement à pouvoir avoir des contacts ou à faire passer des messages avec des acteurs avec lesquels les gouvernements ne peuvent pas parler, soit parce qu'ils ne savent pas comment les trouver, soit souvent parce qu'on a pris des sanctions et que donc on ne peut plus parler on ne peut plus parler au Hamas, on ne peut plus parler à un groupe comme Boko Haram en Afrique et d'autres encore. Et donc il est très utile d'avoir des médiateurs privés qui font une sorte de diplomatie privée aujourd'hui, extrêmement discrète, extrêmement confidentielle, pour aller vers ces interlocuteurs, ces acteurs incontournables aujourd'hui de la vie diplomatique. Vous citiez tout à l'heure le Centre du dialogue humanitaire où je travaille de temps en temps. Ce centre est soutenu par toute une série de gouvernements de différents pays qui leur demandent, qui viennent les voir en leur demandant est-ce que vous pourriez être l'intermédiaire sur telle crise pour m'aider parce que je ne peux pas le faire moi-même. Une partie prenante aujourd'hui, la médiation, ce type de médiation privée est partie prenante de la négociation, acteur, je dirais pas obligé, mais en tout cas souvent utilisé par un grand nombre de gouvernements.
Est-ce que c'est l'avenir de la diplomatie ?
Est-ce que c'est l'avenir ? En tout cas, c'est de, pour le moment en tout cas, qu'en sera-t-il dans 30 ou 40 ans, je n'en sais rien, mais en quelque sorte, ces canaux complémentaires, parallèles, deviennent un élément important de notre vie diplomatique. L'important et l'essentiel, c'est que l'information demeure bien, c'est que la communication, la fluidité de l'information entre ces intermédiaires et les diplomaties publiques et officielles, cette information circule bien, qu'il y ait une bonne transparence. Parce que si vous commencez à avoir des circuits parallèles qui ne se parlent plus et qui chacun agissent de leur côté, alors là, vous amenez le désordre et ça sera encore plus compliqué de résoudre toutes les crises que nous rencontrons à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a la même expertise au sein, par exemple, du Centre du dialogue humanitaire que dans les cabinets diplomatiques ou les cabinets des ministères des Affaires étrangères que vous avez connus ?
Non seulement il y a la même expertise, mais il y a souvent une expertise que les diplomates n'ont pas. C'est-à-dire que beaucoup de ces médiateurs, en tout cas ceux qui sont efficaces, sont constitués de gens qui vivent sur le terrain. C'est des personnalités locales. Dans le Sahel, ce sont souvent les marabouts dans les villages du Mali ou du Burkina Faso qui jouent actuellement les intermédiaires, vous savez, entre deux catégories de communautés qui sont souvent en conflit, les agriculteurs et les laboureurs et les éleveurs. Entre agriculteurs et éleveurs, il y a souvent de très fortes dissensions que les mouvements djihadistes exploitent à fond. Et donc, avoir des possibilités de dialogue entre ces deux communautés pour éviter les conflits, c'est souvent l'affaire des grands sages dans les villages que, justement, des organisations comme HD vont mobiliser pour les faire travailler. Et ça, le diplomate installé dans les capitales n'a pas souvent accès, ou en tout cas un accès aussi direct. Donc oui, c'est une expertise tout à fait complémentaire et très utile.
Pierre Vimont, parallèlement à cet investissement au Centre du dialogue humanitaire à Genève, vous êtes également donc Senior Fellow à la Fondation Carnegie Europe. Qui faites-vous ? Qu'est-ce que c'est ce...
C'est un bureau installé à Bruxelles qui dépend d'un think tank à Washington, Carnegie Endowment for Peace, la fondation de Carnegie pour la paix. C'est donc de la recherche essentiellement. À la différence de HD qui est opérationnel et sur le terrain et fait de la médiation de manière très pratique, là c'est éventuellement de la recherche. Et dans ce bureau installé à à Bruxelles. Carnegie a également des bureaux à Delhi, à Pékin, à Beyrouth. Il en avait un remarquable à Moscou qui a été fermé récemment par les autorités russes, malheureusement. Mais donc, le bureau de Bruxelles, il travaille sur les questions européennes, à la fois sous l'angle géopolitique, sur les réformes possibles de l'Europe et comment l'Europe doit se positionner par rapport aux autres grands partenaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Et donc, notre rôle, c'est de faire de la recherche, de publier des papiers. Et je crois que le seul intérêt que je peux apporter à mes collègues qui sont de remarquables chercheurs bien plus compétents que moi, c'est que j'apporte la pratique, l'expérience de la pratique au jour le jour, et que donc de temps en temps dans nos discussions je peux essayer de les ramener un peu à une approche un peu plus terre à terre par rapport parfois aux grandes idées qu'ils peuvent développer, qui sont intéressantes et dont on a besoin, mais dont la portée pratique est parfois plus difficile à cerner.
Une pratique que vous exportez aussi aux États-Unis, puisqu'à côté de l'analyse du Centre de dialogue humanitaire, de la recherche au Carnegie Europe, vous enseignez également à l'Université de Columbia à New York, où vous passez 3-4 mois par an. Vous enseignez quoi ?
J'enseigne la pratique diplomatique, justement. Enfin, c'est un croisement entre l'enseignement de la pratique diplomatique et une meilleure connaissance des institutions européennes. Jusqu'à maintenant, les étudiants ont eu l'air intéressés et surtout, je crois que ce qu'ils aiment, là encore, c'est la vie d'un praticien, d'un diplomate qui a travaillé sur ces questions. Et moi, ce que j'apprécie là-bas, c'est bien évidemment l'extraordinaire vitalité des campus universitaires américains, où vous avez des étudiants de toutes nationalités qui sont là, en majorité d'ailleurs des étrangers, et qui donnent un dynamisme à ces campus tout à fait remarquable.
Pierre Vimont, vous qui vous ouvrez désormais à des jeunes étudiants, des jeunes futurs diplomates, quel conseil, pour terminer, donneriez-vous à des jeunes diplomates aujourd'hui ?
Faites ce métier.
Faites-le bien.
Je vois beaucoup d'étudiants qui me disent, est-ce que ça vaut encore la peine de faire de la diplomatie quand on voit la guerre qui grandit? On se demande où est la place de la diplomatie. On voit les critiques régulièrement adressées aux diplomates. Et donc, est-ce que c'est un métier d'avenir? Et moi, le conseil que je leur donne toujours, c'est oui, on aura toujours besoin de la diplomatie. Et comme je l'ai dit, je crois, lors de nos précédente session, c'est un métier qui a une telle diversité que vous ne vous ennuierez jamais si vraiment vous avez envie de vous y investir. Donc voilà le conseil, c'est garder confiance et aller de l'avant et devenez diplomate.
Merci beaucoup Pierre Vimont.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec le diplomate Pierre Vimont, chargé de programme Daphna Graal, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.